Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un profession philosophe enregistré avec Mazarine Pinjot. Profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprend-on? Comment le transmettre? Et comment se fabriquent les idées? Quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui est romancière et philosophe. Ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de philosophie, elle enseigne aujourd'hui à l'université Paris 8. Elle aime Descartes, Sartre, Spinoza, mais quand on lui parle de figure paternelle, ce ne sont pas ses noms qui viennent à la bouche. Elle se livre dans ses récits, mais on la tient pour l'incarnation du secret. Alors la philosophie est-elle aussi une manière de parler de soi, ou bien un masque pour recouvrir ce que l'on dit dans une autre forme, celle de la littérature? Et jusqu'où philosophie et littérature peuvent-ils vivre en bon compagnonnage? Bonjour Mazarine Pinjot.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
On commence avec une cigarette?
Allez.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift breaks are snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind.
C'est votre chanson préférée?
Grosse frustration là.
N'est-ce pas? On va jouer un petit peu avec l'auditeur avec vous.
Ouais, c'est une chanson que j'adore, David Bowie. Et c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée pendant mes études, et notamment donc de philosophie pendant l'agrégation. Je me souviens, c'était un petit peu le.
Parce que vous avez des idées de suicide qui vous traversent.
Pas du tout. Pas du tout à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on a eu beaucoup d'autres à d'autres moments, ouais. Mais non. Enfin, je veux dire, il y avait pas de rapport de cause à effet entre réviser de la philosophie pour l'agrégation et des idées de suicide. Beaucoup plus pendant que je préparais Normale Sup d'une certaine manière. Alors, je dirais pas jusque là, mais ça a été une période beaucoup plus difficile. Alors que l'agrégation de philosophie, c'était assez merveilleux parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie et donc ne faire que de la philosophie, c'était fantastique quoi. Mais il fallait quand même à certains moments faire des pauses et donc un peu écouter David
Bowie. Et il y a un lien entre David Bowie et la philosophie ou pas du tout?
Non, pas de lien que moi j'ai pu établir en tout cas.
Bon, ça tombe bien, on parle de philosophie ce matin, on va quand même écouter la fin de la chanson.
Allez.
Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a hug can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the nights did lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain.
journée qui commence avec David Bowie est toujours une bonne journée, hein, Mazarine Pinjot. Donc merci à vous de nous avoir permis de le faire. Et en plus, il le dit bien, you're not alone, vous n'êtes pas seul et vous êtes formidable. C'est une bonne manière de commencer une discussion. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous ?
Je pourrais pas dire philosophe, puisque philosophe, c'est vraiment lorsqu'on a commencé, alors Deleuze dirait, créer des concepts. Je pense pas avoir créé des concepts, ni fondé un système, mais... En revanche, j'enseigne la philosophie j'enseigne la philosophie en tant que telle, c'est-à-dire que je peux faire de l'histoire de la philosophie, mais pas seulement. Et je pense que en tout cas dans l'université française, elle est assez structurée sur l'histoire de la philosophie. Alors pas dans la fac où je travaille, où on peut vraiment s'autoriser de travailler sur des questions qui sont les nôtres ou sur des thèmes assez transversaux et où il y a peut-être une démarche plus spéculative que proprement historique.
Et vous arrivez à définir ce que c'est que la philosophie ?
C'est difficile de la définir. Je pense que la définir, ça serait lui ôter un peu de son mystère, mais je dirais que...
C'est forcément mystérieux ?
En tout cas, pour moi, la philosophie est une manière de questionner. C'est vraiment apprendre à poser des problèmes. Il y a d'autres manières d'envisager la philosophie, hein, mais j'aime bien l'idée de s'en tenir à une forme de critique, de questionnement, mais d'un certain type de questionnement qui ne renvoie jamais à un dogme. On peut aussi entendre la philosophie comme une forme de dogmatisme ou d'engagement même politique ou avec un contenu. Moi, je suis beaucoup plus de l'école, je dirais, cartésio-kantienne. C'est pas très joli. Enfin, en tout cas, de celle d'une forme de questionnement et qui voilà et peut-être aussi dans une idée de la finitude de séparation des espaces. Enfin, je suis assez hermétique aux philosophies qui sont trop englobantes, hein, ou trop dialectiques, ou enfin je les enseigne et je les apprécie comme des belles œuvres d'art, mais moi intimement ça m'est moins proche.
Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie?
Première rencontre, je sais pas, parce que je pense l'avoir plutôt rencontrée à travers des textes de littérature, ce qui est assez logique puisqu'on lit d'abord des textes de littérature avant vraiment de lire des textes de philosophie qui sont en tout cas réputés plus ardus. Et c'est vrai que j'ai l'impression, il me semble que je l'ai à peu près rencontré, enfin que ça a été ma première rencontre avec la philosophie, même si c'était pas encore dans une approche à proprement parler philosophique, mais dans les textes de Sartre, de Camus, où j'avais toute une époque, mon époque littérature française contemporaine, où je lisais beaucoup la Gide et Camus, La Peste, ça avait été une grande révélation pour moi, et je pense que c'est un peu à travers ce type de littérature que j'ai commencé à m'intéresser à une forme d'écriture aussi, et encore une fois, une forme de questionnement.
Et la philosophie, c'est un type d'écriture ?
Ça engage un certain type d'écriture. Après, chaque philosophe a sa manière d'écrire, j'allais dire son style propre. C'est pas tout à fait juste, parce que le style du philosophe, c'est pas le style de l'écrivain. Il raconte moins un rapport au monde dans sa matérialité même. Parfois, il y a des styles qui sont assez transparents et qui s'abolissent au profit de leur objet, mais pas toujours. Il y a des philosophes qui ont besoin d'inventer un langage pour être au plus précis de leurs pensées, d'autres qui ont besoin de récupérer le langage commun, mais de le nettoyer des sédiments qu'ils transportent. Je pense que chacun est peut-être obligé de rendre compte de son rapport au langage, mais néanmoins, c'est quand même pas le même type de rapport au langage que l'écriture.
Et vous savez, après le bac, vous que vous faites des études, vous intégrez l'école normale supérieure, vous décidez de passer l'agrégation de philosophie, donc vous vous destinez à une carrière de philosophe. Qu'est-ce qui vous plaît à ce moment-là, enfin, de prof de philo en tout cas?
Qu'est-ce
qui a motivé ces choix?
Alors, ce qui a motivé mon choix d'abord, il y a eu plusieurs choses. En effet, je suis rentrée à Normale Sup en lettres modernes. D'abord parce que j'avais des meilleures notes, hein, soyons très pragmatiques. Et en philosophie, j'étais fascinée quand j'étais en prépa. Ça me fascinait. J'avais envie de ça. Je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait, mais il y avait aussi quelque chose que je comprenais pas. Alors, je comprenais peut-être pas aussi ce que me demandait le prof. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionnait pas d'un point de vue scolaire, en tout cas. Et donc, je suis restée en lettres modernes. Mais dès que j'ai intégré Normale Sup, effectivement, je savais qu'il fallait que j'aille vers la philosophie. pour différentes raisons. Alors, mon objectif, c'était pas d'enseigner. Je pense pas que lorsqu'on passe la grecque, on a forcément l'idée de vouloir enseigner.
Et pourtant,
c'est un peu stupide puisque c'est un concours qui est fait pour enseigner. Et en général, on finit par enseigner. Mais moi, je sais pas quel âge j'avais. J'avais 20 ans. J'étais pas en train de me demander ce que j'allais vraiment faire dans la vie. En fait, j'étais vraiment dans le présent de mes études. Et d'une certaine manière, j'avais pas forcément envie d'enseigner. Bon, après, finalement, j'ai enseigné et j'adore ça. Mais à cette époque-là, bon, en plus, on est tout jeune. Enfin, je sais pas, il y a un côté comme ça quand on enseigne où on a l'impression de transmettre quelque chose. Et à l'âge que j'avais, je me sentais pas très légitime pour le faire. Néanmoins, en termes d'enseignement, la philosophie me paraissait beaucoup plus logique comme discipline que la littérature. Alors là, pour le coup, j'aurais été absolument incapable d'enseigner la littérature parce que c'était trop intime, parce que il y avait quelque chose qui devait rester de l'ordre de la création et pas de l'analyse. Alors que la philosophie, d'emblée, me semblait être, par définition, le lieu du dialogue, quoi. Par définition, un espace dialogique où, par définition, il fallait qu'il y ait un maître, un élève. Alors, pas au sens d'une domination, hein, pas du tout, mais au sens d'une transmission et au sens d'un dialogue. Et je pense qu'il est difficile de faire de la philosophie en dehors de toute forme d'enseignement. Alors, pas forcément l'enseignement à la fac ou l'enseignement au lycée. Peut-être qu'il y a d'autres manières de transmettre, mais en dehors de toute forme de dialogue.
Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez aussi commencé à préparer une thèse que vous avez fini par soutenir des années plus tard, en 2016, je crois.
Ouais, j'ai commencé une thèse que j'ai
de philo donc.
De philosophie que j'ai arrêtée parce que bon, il y avait aussi l'aspect j'avais passé beaucoup de temps dans les bibliothèques, beaucoup de temps à faire des études et d'une certaine manière, terminer sa thèse et enseigner directement, c'était un peu continuer à vivre et dans les bibliothèques et à faire des études puisque lorsqu'on fait de la recherche finalement, c'est une continuité assez logique des études qu'on a commencé à faire. Et j'avais envie d'avoir d'autres expériences, quoi. J'avais envie d'essayer autre chose, de pas d'emblée me mettre dans ce sillon-là où j'avais l'impression que j'allais m'interdire certains autres types d'expériences. Donc j'ai arrêté aussi pour ça.
Mais vous êtes revenue.
Et j'y suis retournée, ouais, mais c'était d'ailleurs super intéressant parce que je m'aperçois que lorsque j'ai repris la thèse en changeant de sujet, mais pas tant que ça finalement.
C'est une thèse sur René Descartes.
Hein. Ouais, sur
Temps et subjectivité chez Descartes.
Oui, c'est ça. Et en fait, j'avais commencé une thèse sur la problématique de l'altérité chez Descartes et ses réponses en phénoménologie. Et donc, finalement, je suis passée de la question de l'altérité vers celle de la temporalité, qui au fond assez identique en réalité. Et donc, c'est marrant de s'apercevoir d'abord que finalement, on travaille toujours sur la même question. Enfin, c'est plutôt les questions qui nous travaillent que nous les travaillons. Et aussi que lorsqu'on fait une thèse plus tard, plus âgé, en ayant engrangé d'autres types d'expériences, on n'est plus du tout dans le même rapport à la recherche et à l'écriture. C'est-à-dire que là, il s'agit de faire une recherche pour soi. En réalité, on est en train de construire quelque chose et on est traversé et irrigué par une question très existentielle, quoi. On n'est plus là pour faire plaisir à des pairs ou à des professeurs, etc. Enfin, il y a vraiment. Moi, j'ai été contente de reprendre dans une approche complètement différente cette recherche parce que j'étais justement plus du tout dans la posture de l'élève, quoi.
C'est
comme
ça.
J'aurais pu l'être si j'avais été dans la continuité de mes études.
Et le terme de recherche, il est approprié ? Est-ce qu'on cherche quelque chose quand on fait de la recherche ?
Ah ouais, c'est une bonne question. Moi-même, parfois, je me demande qu'est-ce que c'est exactement de faire de la recherche. Surtout que bon, je sais pas comment font les autres. En plus, c'est des choses assez solitaires. Donc parfois, on se demande, mais alors, qu'est-ce que font les autres ? Est-ce qu'eux, ils sont dans une méthodologie hyper stricte à propos de laquelle le terme de recherche aurait une légitimité totale ?
Mais vous, qu'est-ce que vous cherchez ? Dans la recherche.
Je sais pas en fait, mais je pense que si je savais exactement, j'arrêterais de rechercher. Mais je suis mue par des questions, je suis mue par des problèmes qui sont les miens, mais pas dans le sens de problèmes personnels. Évidemment, ça n'aurait aucun sens ni absolument aucun intérêt, mais des problèmes qui peuvent rencontrer une structure plus générale, voire universelle, et qui et qui donne d'une certaine manière un outillage pour voilà, pour aborder les questions du monde, pour justement pour essayer de les poser à nouveau frais. Et c'est difficile à dire parce qu'on est mu, il y a un moteur, il y a quelque chose, il y a un désir, sinon on le fait pas, hein, parce que sinon ça serait très très ennuyeux de faire de la recherche si on n'était pas mu par ce désir. Mais ce désir-là, je pense qu'il est alimenté par encore une fois par des questions très profondes qui sont des questions existentielles, mais qui cherchent une forme qui à nouveau n'est pas celle de la forme intime ou personnelle, puisque elle s'incarne dans quelque chose d'assez rationnel, de démonstratif. Et donc je sais pas ce qu'on cherche, mais en réalité, je sais moi à peu près ce qui me les questions, le champ des questions qui me meuvent, mais je peux pas dire que c'est exactement ce que je cherche parce que sinon je.
Mais si vous essayez de comprendre.
Ah oui, on essaye
de vous rassurer. Comprendre. On est moins seul justement, comme dirait David Bowie, parce que si on se dit que les problèmes qu'on se pose sont universels, ça fait sortir aussi de sa solitude.
Je sais pas si ça fait vraiment, enfin, de fait, ça fait sortir d'une solitude parce que on est dans une recherche d'objectivation des problèmes, donc quelque chose qui doit pouvoir être partagé par tout le monde. On est dans une quête de sens, hein, c'est peut-être banal de le dire, mais il y a vraiment une quête de sens, et donc je suis pas sûre qu'on puisse le trouver, mais au moins arriver à le formuler ou arriver à formuler cette quête, je trouve que c'est déjà un grand pas. Voilà, et moi c'est amusant parce que je m'aperçois toujours a posteriori, hein, c'est rarement a priori, que les questions qui m'engagent dans telle ou telle recherche sont à peu près les mêmes que celles qui conduisent l'écriture d'un roman, mais sauf que je l'aborde évidemment pas du tout de la même manière, mais au fond ce sont les mêmes grandes questions, quoi.
Bah on va essayer de comprendre ça en s'intéressant notamment aux philosophes qui ont compté pour vous, parmi lesquels on trouve notamment Jean-Paul Sartre.
Deux hommes d'affaires très malins se rencontrent sur le quai d'une gare et il y en a un qui dit à l'autre « Où vas-tu ?» Et le second répond « À Paris ». Il se quitte et le premier dit à sa femme « Tu vois, je suis sûr qu'il va à Paris. Il m'a dit qu'il allait à Paris, c'est pour que je croie qu'il n'allait pas à Paris. Par conséquent, il va à Paris. Nous sommes tous comme ça. Si on nous dit A, nous croyons que c'est pour nous faire comprendre B. » Et si on nous dit la vérité, nous pensons que c'est pour nous faire croire à un mensonge. Le vrai est devenu un moyen de persuader le faux.
Quel rôle a joué Jean-Paul Sartre pour vous, Mazarine Pinjot ?
Je pense qu'il a joué un rôle d'introducteur, ça se dit, ça, c'est pas joli.
On comprend.
De passeur. Je l'ai quitté. Enfin, je le travaille plus beaucoup. Il fait plus vraiment partie de mon corpus. Mais en revanche, je pense qu'il m'a, ouais, il m'a accompagné dans l'entrée en philosophie, mais sans doute justement parce qu'il était aussi un écrivain et que dans sa philosophie, il y a beaucoup de descriptions très belles, très littéraires, qui permettent de rendre compte de sa théorie. Et je pense que ça a été pour moi le bon moyen, à travers les descriptions littéraires, d'arriver à entrer vers voilà, une construction plus théorique, plus un travail avec des idées, plus qu'avec des émotions, mais les deux étant très intimement liés chez lui.
Quand vous dites « je l'ai quitté », c'est comme si vous parliez d'un, un peu. D'un amant ou d'un ami. En tout cas, il y a un lien affectif qui n'est plus.
Mais quand on travaille sur des philosophes, enfin, en tout cas, moi, je crée des liens hyper affectifs, mais même un peu problématiques. C'est-à-dire que je peux les défendre bec et ongles, même si je suis de mauvaise foi, enfin, même si je sais qu'ils ont tort. Enfin, il y a un truc comme ça où tout à coup... Mais c'est quand même ceux avec qui on dialogue le plus, quoi. Enfin, en tout cas, pendant certaines périodes de la vie. Et qu'on lit, qu'on relit. C'est ça aussi l'intérêt de la philosophie, ou en tout cas sa spécificité. Ce que je fais très, très, très peu avec la littérature, c'est qu'on relit des textes, quoi. Et on peut les relire 350 fois. À chaque fois, c'est une autre lecture. Et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Alors quand c'est des textes d'une densité suffisante, évidemment. Mais, et ça, c'est tellement étonnant. Et donc, on les connaît très intimement, ces auteurs. Et on vit avec eux. Donc, forcément, ce nous, des relations assez, assez fortes, quoi.
Et c'est pareil pour Descartes, qui, lui, pour le coup, vous a accompagné très longtemps.
Lui, voilà. Lui, je le...
Vous l'appelez René, d'ailleurs, je crois, non?
Bon, ça, c'est... Oui, c'est très familier. Non, mais oui, Descartes, c'est vraiment un auteur qui compte beaucoup pour moi. Mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il m'aide, quoi. Qu'il est là pour m'aider à comprendre, à débroussailler le monde dans son obscurité, sa complexité. J'ai l'impression que les outils qu'il me donne sont en permanence utiles et éclairants.
Et en prenant des exemples, en quoi il vous aide et quels sont les outils qu'il vous donne et qui vous aident au quotidien ou dans votre travail ?
Alors, c'est compliqué de trouver des exemples parce que c'est des choses assez... c'est des choses assez indicibles. Mais bon, prenons quand même comme exemple, puisque c'était le dernier travail que j'ai fait, sur la question de l'enfance chez Descartes. Bon, c'est une question qui n'est pas très philosophique, l'enfance, a priori. En général, c'est même ce qui est hors philosophie. Enfin, c'est la marge, quoi. C'est la minorité, c'est ce dont on doit sortir pour commencer à raisonner. Et donc, je me suis assez intéressée justement à cette figure. Alors, évidemment, c'est pas sans lien à d'autres questions qui m'habitent et que je traite par ailleurs. Et cette question de l'enfance chez Descartes, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est un terme qui est très récurrent chez lui, qu'on retrouve à de nombreuses reprise sous la forme d'une métaphore qui consiste à désigner ce qu'il appelle la perception sensible. Donc en fait c'est une catégorie, c'est à la fois un âge de la vie et à la fois une catégorie. Je trouvais ça hyper intéressant d'interroger l'enfance sous ce double prisme qui est celui d'une catégorie épistémologique, en fait, perception sensible versus intellection, par exemple, et de l'autre côté, comme un âge de la vie qui est un peu l'envers d'une catégorie épistémologique, puisque c'est pas une structure, c'est du temps, quoi. Et en fait, rien que ça, rien que cette tension entre une catégorie épistémologique et une catégorie temporelle. Rien que cette tension, moi, elle me permet d'aborder plein de problèmes, plein de problématiques, et notamment, alors bon, là c'est chez Descartes, mais en fait ça peut s'exporter ailleurs. La question de ce qu'il en est de l'identité de soi à travers le temps, qui rencontre l'autre question qui est qu'est-ce qui fait que je suis un homme, quoi. Est-ce que lorsque je suis un enfant, je suis un homme alors que je ne pense pas? Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout, l'enfant, c'est quand même le même être que celui qu'il deviendra? Enfin, voilà, c'est des questions que je trouve hyper intéressantes parce que ça, il y a à la fois la question de la continuité à soi, bon, qui est pas si évidente que ça. Qu'est-ce qui fait que je suis la même personne alors que je change? Et en même temps, quelque chose que je considère comme essentiel à maintenir, cette idée du cogito, qui est une forme de rupture absolue par rapport à tout, par rapport au temps, par rapport à l'appartenance au monde. Et donc d'un côté, on a la catégorie de l'enfance qui est l'appartenance au monde, la familiarité au monde, les évidences premières. Et de l'autre côté, on a une rupture radicale qui est le cogito et qui va fonder à nouveau frais la philosophie. Et donc on a côte à côte comme ça deux figures qui sont d'une certaine manière non synthétisables. Et en fait, je trouve que c'est, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que c'est d'une fertilité immense que d'arriver à tenir ensemble, y compris pour essayer de se comprendre soi-même, à la fois le fait qu'on s'installe dans une continuité à plein d'égards, continuité qu'elle soit transgénérationnelle ou qu'elle soit juste individuelle, et en même temps qu'on ne puisse rendre compte de soi qu'à travers une rupture radicale qui serait modélisée sous la forme du cogito. Bon, voilà. Alors, c'est peut-être un peu long et un peu bizarre, mais enfin, je me suis.
Voilà, c'est très clair.
Une digression. On ne sait jamais quand on est clair, quand on.
Vous êtes là pour ça, hein, voilà. De toute façon, pour parler de vous et de ça.
Et en fait, pour moi, articuler sans pouvoir l'articuler, ces deux dimensions qui sont irréconciliables, eh bien, c'est pour moi ce que j'appelle la vie, c'est-à-dire une sorte de performativité du vivant, enfin voilà, du vivant qui fait que à la fois on est le même et à la fois on a cette liberté de pouvoir de s'écarter de soi-même et ça donne une structure qui permet de le penser.
Oh, t'as vu ça ? La foudre est tombée.
Oui, et c'était tout près d'ici.
Pas domkyrka i helvetet gick åt helvete.
Tänk om Gud straffar dig för att du säger sådär.
J'espère que ça a foutu le feu à sa sainte cathédrale.
Dieu te punira si tu parles comme ça de sa cathédrale.
Eh ben, si cet animal n'a pas mieux à faire qu'à punir à rien du tout comme Alexandre et pour rien du tout.
Non, precis, den snuska jäveln.
C'est un type dégueulasse. Plus dégueulasse encore que je le pensais.
Chut, tu l'entends, il joue de la flûte.
Écoute, si nous souhaitons très fort qu'il meure très très fort, il mourra, tu verras.
Mais vous ne m'en pouvez rien, c'est un petit.
Mais il faut le faire à haute voix ensemble.
Et toi,
2, 3.
De din fan.
Meurs, sale évêque.
Il continue quand même à jouer.
Essayons encore.
1, 2, 3. Meurs, sale évêque.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, comme tous les vendredis, aujourd'hui en compagnie de Mazarine Pinjot et ses deux bambins qui souhaitent la mort de l'évêque qui est en train de devenir leur beau-père. Ce sont Fanny et Alexandre, les deux personnages du film de Bergman, qui date de 1982 et qui vous est très cher, je crois, Mazarine Pinjot.
Ah oui, j'adore ce film, plus encore la série, d'ailleurs, dont est tiré le film. C'est un peu l'œuvre somme de Bergman, où il y a tous ces motifs, tous ces questionnements. Alors c'est très très métaphysique, hein, comme cinéma. C'est sans doute pour ça que je l'aime et que je suis très heureuse d'entendre cet extrait. Et ouais, donc il y a tous ces thèmes, et notamment la question de la double croyance, la croyance dans Dieu, enfin, et dans une religion protestante en l'occurrence. Son père était pasteur, et donc il y a toujours cette figure. Alors là, c'est celle de l'évêque qui est voilà, d'une radicalité, d'une violence, et en même temps d'une perversité totale. Et de l'autre côté, l'art comme rédempteur. Il y a toujours ces deux figures de la rédemption, la religion versus l'art. Et ce que j'aime, c'est que en fait, l'une comme l'autre sont des forces de croyance, et que l'aune à laquelle ils peuvent être jugés, c'est dans ce qui finalement ça permet de créer, quoi. Et donc Alexandre, dont le père, lui, est un comédien qui grandit dans une famille de théâtre, et dont le beau-père, après la mort du père, est un évêque, va vraiment vivre cette dualité de principe dans sa chair, quoi. Vraiment l'art contre la religion, et c'est la grande problématique de Bergman. Ce film, il est sublime.
Si les enfants sont les oubliés de la philosophie, c'est ce que vous disiez, en tout cas l'enfance, c'est pas le cas dans le cinéma.
Non, c'est pas le cas dans le cinéma, c'est pas le cas dans la littérature. Non, au contraire.
Par la philosophie.
C'est-à-dire que la philosophie, dans la mesure où c'est une discipline qui va quand même promouvoir à un moment donné le logos et la pensée irrationnelle contre le mythe, enfin originairement en tout cas, on pourrait dire d'une certaine façon que le mythe est du côté de l'enfance. On le dit traditionnellement, on fait ce genre d'association, et la raison du côté de l'âge adulte. Il y a comme ça cette espèce de métaphorisation en termes d'âge de la vie qui fait que la philosophie est plutôt du côté de l'âge adulte par définition, mais parce que l'enfance, c'est l'irrationnel, c'est l'émotion, mais c'est aussi l'enfant, il est soumis à ses propres passions, et la question d'accéder à quelque chose qui permettrait peut-être de les discipliner, c'est tout c'est en tout cas traditionnellement quelque chose auquel on accède un peu plus tard, enfin en tout cas dans la vision pas classique de la chose. Donc il est rare que l'enfant soit une question pour la philosophie. Chez Kant, il est associé à la minorité. Accéder aux lumières, c'est accéder à l'âge adulte. La métaphore est filée.
Vous avez écrit un livre, hein, qui s'appelle Les enfants et les fous, Descartes et ses lectures contemporaines, chez Classique Garnier.
Oui.
Les enfants comme les fous sont les rebuts de la philosophie.
Oui, en tout cas, c'est les marges. C'est ceux qui interrogent justement ce que c'est que la pensée. C'est toujours dans son autre qu'elle vient, d'une certaine manière, se définir. Dès lors qu'on essaye de circonscrire ses frontières, soit elles sont extrêmement étendues, soit au contraire, la pensée est identifiée uniquement à la raison.
Il y a Émile de Rousseau quand même.
Alors, il y a toute la philosophie de l'éducation, bien sûr. En effet, il y a la philosophie qui s'intéresse à l'éducation, et on trouverait quand même un corpus assez, assez considérable là-dessus. Ensuite, il y a la figure de l'enfance, mais bon, c'est toujours un peu en lien avec la littérature. Je pense à Lyotard, par exemple, lecture d'enfance. Mais là aussi, c'est des lectures de textes souvent littéraires. Il en fait un paradigme absolument fascinant, hein. J'adore ce texte. Et donc c'est quand même toujours un peu à la marge. Et donc les enfants et les fous, c'est une expression consacrée justement qui vient interroger ce qu'il en est de la pensée. Est-ce que les enfants et les fous pensent, ou est-ce que les enfants et les fous ne pensent pas? Alors moi, ma grande question s'agissant de Descartes, c'était les enfants et les fous. Bon, on pourrait se dire que, a priori, ils ne pensent pas, et pourtant, Descartes incessamment réaffirme que les enfants, comme les fous, sont des hommes, ni plus ni moins. Et en même temps, l'essence de l'homme, c'est de penser. Donc il y a une forme de tension qui m'a beaucoup intéressée. Comment peut-on dire que l'essence de l'homme, c'est de penser, et en même temps dire mais les enfants et les fous sont tout autant hommes qu'un polytechnicien, ou qu'il n'y a pas de degré dans le fait d'être homme. Et voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de voir que Descartes avait en réalité interrogé cette frontière, alors qu'il sera un peu sous le coup de Butoir, de Foucault, qui en fera un petit peu le grand méchant celui qui a un peu, enfin, qui a correspondu au grand renfermement et qui a fait de la raison l'unique référent, enfin, le souverain.
Il y a aussi les animaux, d'ailleurs, Descartes, de ce prisme-là. Mais est-ce que vous pensez que les enfants sont des philosophes en puissance? On dit de plus en plus, hein, on fait de la philosophie pour les enfants, alors, que les enfants ont un étonnement compatible avec la philosophie. Quelle est votre position par rapport à ça?
Je pense aussi que l'enfant est un pervers polymorphe. Hein, je veux dire, l'enfant, alors oui, on a oublié de
parler philosophe de la aussi, psychanalyse. Peut-être, l'un n'explique pas l'autre.
On a oublié de parler de la psychanalyse qui réintroduit la figure de l'enfant. La psychanalyse étant aussi, enfin, participant aussi du corpus philosophique, par ce biais-là, l'enfant est réinvesti. Mais non, je dirais, enfin... Il est naturellement philosophe à travers la question du pourquoi, qui est, enfin, quand le rappelle dans l'introduction à la critique de la raison pure, qui est la question populaire qui mène la raison finalement vers une tendance assez naturelle à la métaphysique. Donc oui, d'une certaine façon, l'enfant est naturellement métaphysicien, mais c'est tout, je dirais. Après, la philosophie, c'est quand même une discipline avec un corpus, un travail assez spécifique sur des
textes. C'est pas juste le fait de se poser des questions et de demander pourquoi.
Non.
Bon. Day, I took a paper.
Un jour,
and wrote.
J'ai pris un morceau de papier et j'ai écrit.
Father, his
Mon
name
père,
was Michael Appelfeld.
Son nom était Michael Appelfeld.
Her name was
Ma mère, son nom était Bunya Appelfeld. Je suis né dans une ville nommée Tchernovitz. J'ai vécu dans une rue qui s'appelait rue Masaryk. Et j'ai fait une liste longue. C'était comme une barrière pour me dire à moi-même, je ne suis pas une personne perdue. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai une ville où je suis né, j'ai une rue où je suis né, j'ai un réverbère à moi, là. J'ai des champs où mes grands-parents vivaient dans un village à la ferme. Et donc, au moment où j'ai vu cette liste, cela m'a donné de la confiance. Je n'étais plus seul au monde. J'avais une famille.
Bouleversant. Vous l'avez reconnu, j'imagine, Mazarine Pinjot.
Ouais.
Qui venons-nous d'écouter?
Aaron Appelfeld, qui revient sur son enfance.
Qui est-il?
Alors, c'est un écrivain israélien, enfin, devenu israélien, hein. Puisque, comme il le rappelle dans cet extrait, il est né à Tchernovitch, qui est, je crois, aussi la ville natale de Chélan. C'est une ville où il y a eu énormément de... Enfin, une concentration d'écrivains et de poètes. Et sa mère est assassinée sous ses yeux, donc on est... je ne sais plus exactement en quelle année elle a été assassinée, mais bon, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est lui-même déporté avec son père et il arrive à se sauver pendant la marche. Voilà, il arrive à partir dans la forêt et il va vivre un certain nombre d'années seul dans la forêt, un peu protégé par la pègre ukrainienne, en travaillant de ci de là chez des paysans grâce auxquels il arrive à survivre, mais qui en général le maltraite. Et puis ensuite, il va voilà atterrir en Israël à la fin de la guerre et arriver dans un pays où, enfin, où il connaît personne, où il connaît pas la langue, où le climat est complètement différent et où rien n'a de commune mesure avec le pays qu'il a quitté. Et c'est un auteur qui, pour moi, pose toutes les grandes problématiques à la fois de la littérature, mais aussi de la philosophie.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un auteur que je peux travailler, par exemple, en philosophie, dans la mesure où il va se poser plusieurs questions. D'abord, comment est-il possible d'écrire quelque chose, alors là pour le coup, qui relève de l'enfance, mais aussi du premier rapport au monde, enfin de tout ce qui a constitué le rapport sensible au monde, certaines odeurs, certains paysages qu'il a définitivement quittés, mais qui ont construit sa matière intime d'une certaine façon. Et donc, comment arriver à rendre compte de ça ? Alors qu'il s'est tu pendant 4 ans, donc il a perdu le langage d'une certaine manière, il a appris le langage des arbres, il a appris le langage de la nature, mais il a oublié le langage des hommes. Il arrive en Israël où, en 48, on ne parle qu'un langage politique, qui est fait de slogans, on est dans la construction du pays, il y a quand même une idéologie très forte, et l'hébreu qui est parlé, c'est vraiment un hébreu politique avec lequel il est absolument impensable de pouvoir rendre compte d'une expérience qui est de l'ordre du pur intime, et d'un intime déjà extrêmement difficile à dire, mais en plus, dans un langage formaté avec des mots d'ordre, c'est quasiment impossible. Ensuite, il se demande, mais dans quelle langue est-ce que je vais pouvoir écrire ? Il a besoin d'écrire. Et le problème qui se pose à lui, le deuxième problème qui se pose à lui, puisque l'hébreu semble pas du tout efficace à pouvoir donc rendre compte de cette intériorité là, c'est dans quelle langue je vais écrire, dans l'allemand qui est la langue de ma mère, mais qui est aussi la langue des assassins de ma mère. Et donc il va tout en écrivant questionner la question de l'écriture. Il y a toujours une sorte comme ça de réflexivité sur sa propre écriture. Et finalement, ce qu'il va le sauver, c'est la lecture de la Bible. Et de cet hébreu-là, quoi, enfin, de vieux d'il y a 2000 ans, et qui est beaucoup plus proche, finalement, qui va lui permettre de traduire, voire de dire, et de sauver, de ce fait, une expérience qu'il a vécue, une expérience d'un autre monde, d'un ancien monde qui n'est plus, et qui va donner une des œuvres les plus extraordinaires de notre siècle.
Et dans quelle mesure est-ce que son expérience et ses textes vous parlent ? Il y a une forme d'identification ou c'est la réflexion sur l'écriture qui est très importante pour vous ? Vous écrivez beaucoup, Mazarine Pinjot.
Oui, c'est cette réflexion sur l'écriture et sur la question de la langue, sur le fait de se demander comment on peut dire quelque chose qui, par définition, a été voué au silence. C'est, bon, moi, c'est une question, évidemment, qui m'est très importante, sans doute liée voilà, au secret auquel j'ai été tenue, et comment arriver à dire sans trahir, et en même temps à dire quelque chose qui se passait de mots, enfin qui ne peut même pas être mis en langage, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du langage, à peine est-il de l'ordre du sens, mais qui est, encore une fois, d'un autre ordre. Et quelle langue inventer ? Et là, ça contraint à créer une langue, ça contraint à créer du langage.
Vous inventez une langue quand vous écrivez ?
Alors moi, je prétendrais pas ça, même si c'est sans doute ce que, enfin, voilà, un horizon vers lequel j'aimerais, enfin, un idéal, mais Appelfeld le fait, ça c'est certain. Et là, on est vraiment dans la création, parce que là, il y a quelque chose où la langue, cette langue, sa langue à lui n'est précédée par rien. Et elle invente, et en même temps qu'elle invente, elle dit quelque chose qui ne pouvait l'être dans aucune des langues qui lui étaient offertes, et qui dès lors existe, et maintenant ce langage existe, et maintenant on peut entendre l'expérience qu'il a pu vivre, même si elle est jamais exactement au même endroit. Donc voilà, oui, bien sûr, ça me passionne, encore une fois, mais c'est la même question en fait que celle dont je parlais tout à l'heure sur la continuité à soi et la rupture. Comment récupérer quelque chose qui a été vécu par soi-même, mais qui ne peut pas être dit. Et il y a donc une rupture qui est abyssale, enfin qui est même radicale, où il y a une hétérogénéité. Et néanmoins, il arrive à l'écrire. Et voilà, c'est cette espèce de tension, moi, que je trouve toujours très opérante et toujours très, très passionnante.
Est-ce qu'elle passe aussi par pas l'opposition, mais la distinction entre philosophie et littérature pour vous ? Vous avez écrit plus de littérature que de philosophie ? Est-ce que c'est deux langues différentes, comme dirait Appelfeld ? Enfin, justement, comme lui, il hésite entre plusieurs langues. Il me semble que vous parlez le français, vous n'êtes pas en conflit avec d'autres langues.
Ah non, c'est sûr, mais d'ailleurs, je serais bien incapable d'en écrire aucune autre.
Mais est-ce que littérature et philosophie font figure de deux langues et qu'il y en a une plus commode qu'une autre pour
dire des choses ? Ah, c'est clairement deux langues, mais c'est aussi deux rapports au monde qui sont assez différents, en réalité. Et c'est deux langues assez concurrentes.
Concurrentes.
Ouais. Parce que lorsqu'on écrit un roman, enfin, en tout cas, moi, lorsque j'écris, je fais très attention à ce que viennent pas m'entamer ou me phagocyter la langue conceptuelle. Je suis très vite contaminée par cette espèce d'habitus qui a un danger pour la littérature. Par définition, la littérature, elle est là pour créer une émotion, une image, mais pas pour expliquer. La langue philosophique, elle explique, elle clarifie, elle débroussaille. La littérature, elle est là au contraire pour assombrir, enfin, ou pour rendre les choses peut-être plus, moins évidentes.
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, tiens, il y a tel concept, le cogito, puisque vous en parliez justement, je pense donc je suis, qui vous vient et vous devez le traduire? Vous trouvez des périphrases pour dire la même chose parce que c'est dans un roman et vous pouvez pas vous autoriser à mettre cogito, cogito ou citer Descartes.
Bah,
est-ce qu'il y a de la traduction justement d'une langue à l'autre si ce sont deux langues différentes ?
Je sais pas s'il y a de la traduction. On peut le dire, en écrivant le cogito. Enfin, on peut tout à fait, comme Sartre, on le citait tout à l'heure, a écrit la nausée. Enfin, on peut faire une description d'une expérience philosophique. Ouais. Ça, oui, et même ça peut être l'occasion de très belles pages de littérature. Et je pense que c'est même utile pour comprendre de quoi il est question. Alors là, vous parlez du cogito, donc évidemment, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime énormément Descartes, c'est que c'est une philosophie qui ne peut pas se penser en dehors de l'expérience que l'on fait.
C'est passionnant même, on a envie de lire un roman là-dessus.
Mais ça serait possible parce que, comme c'est quelque chose de l'ordre de, comment dire, presque d'une conversion, enfin... Lorsque il s'aperçoit qu'il est, enfin, lorsqu'il dit je suis, j'existe, dans la deuxième méditation, c'est quelque chose qui est tellement de l'ordre d'une expérience, d'un événement, d'une réceptivité que ça peut être effectivement écrit sous forme de en littérature. Mais parce que Descartes est un auteur qui écrit à la première personne, il y a quand même quelque chose de très spécifique. C'est rare les textes de philosophie qui sont écrits à la
narrateur.
Première personne. Il y a un narrateur, il y a une expérience, et c'est ça en fait. Je pense que c'est pour ça que je l'aime tant, c'est que il est très exactement à cet endroit où la pensée est parfaitement incarnée, où on ne peut pas comprendre ce dont il est question si on le vit pas, enfin si on va pas jusqu'au bout de l'expérience qu'il propose, qui est quand même une expérience assez vertigineuse en réalité, en tout cas dans les méditations, peut-être plus que dans le discours, où vraiment on peut frôler la folie, enfin la déréalisation généralisée. Et en même temps, si on fait l'économie de cette expérience, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment comprendre sa philosophie. Et donc, il est à cet endroit-là où son écriture participe intégralement de sa philosophie et où on pourrait pas la mettre en équation. Alors lui, il le fait d'une certaine manière puisqu'il va faire un ordre moré géométrico dans les principes par exemple, enfin ou dans les objections où il va donner un ordre beaucoup plus scolastique, où il va réordonner sa pensée. Mais en réalité, si on lisait que ça, ça serait pas du tout la même expérience. Ces deux grands textes sont quand même écrits à la première personne et ce sont des récits. Et il me semble que chez lui, et c'est là où je reprends cette tension entre la rupture et la continuité, c'est justement l'écriture qui permet de rendre compte ou de dépasser cette tension, comme pour Appelfeld, c'est l'écriture, c'est le faire, c'est le fait d'être, c'est une forme de performativité, je dirais. Enfin, c'est finalement la création dans l'écriture qui fait que la tension entre rupture et continuité est levée, et c'est l'œuvre qui donne finalement la solution au problème qui était initialement posé.
Écoute, Boris, cette situation, je vais pas la supporter longtemps. Je veux bien être cool. Mais dans le frigo, il y a un compartiment pour toi et il y a un compartiment pour nous. Donc tu arrêtes de manger la bouffe des filles, ok? Et je m'occupe plus de ton linge. Tu peux utiliser les machines, mais je le fais plus. J'en ai marre. Tu te débrouilles, tu te prends en main.
Ok, fais plus mon linge.
Boris, ça suffit. Tu trouves une solution et tu te casses.
Ok, file-moi ma part.
C'est exactement ce que je te propose. Un tiers, c'est plus que ta part. On va pas recommencer cette conversation.
Ah si, justement, on va recommencer. L'appartement a pris de la valeur grâce à mes travaux. Je veux ma part. Je partirai pas tant que tu m'auras pas filé ma part. Je veux la moitié. Tiens, pour le fromage. Je pense que ça devrait suffire.
Que venons-nous d'écouter, Mazarine Pinjot?
C'est le film de Joachim Lafosse, L'économie du couple, que nous avons coécrit avec Fanny Burnino.
Avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn, ouais. que vous venez d'entendre. Donc, vous écrivez aussi des scénarios.
Oui.
J'en déduis. Donc, ça, c'est encore un troisième type d'écriture.
Complètement. C'est vraiment, mais pas du tout pareil. Et en même temps, c'est assez complémentaire. Et ce qui est amusant, c'est que, alors justement, pour le coup, le concept, l'habitude d'écrire de façon, démonstrative, peut pas fonctionner dans un scénario qui travaille par image. Pour le coup, le texte s'abolit au profit de l'action et de quelque chose qui est amené à être vu. Donc, la langue elle-même disparaît. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la dramaturgie va quand même chercher du côté de la philosophie. Après tout, c'est comme Aristote qu'on a donné les premières règles. Et donc, il y a quelque chose quand même de la structure, quoi, et de la cohérence structurelle qui n'est pas complètement étrangère à la pensée philosophique. Donc, c'est assez amusant. C'est une sorte de trinité, comme ça, l'écriture littéraire qui, elle, il me semble, doit quand même s'éloigner, en tout cas dans sa langue, de la langue philosophique, même si dans sa structure, elle peut retrouver quand même une forme d'assise comme ça et de dramaturgie qui a des règles qu'on peut tout à fait, enfin sur lesquelles on peut gloser d'un point de vue philosophique. Et de l'autre côté, oui, le scénario qui est encore assez différent, mais là qui est aussi au profit de l'image, et ça c'est très intéressant.
Et juste pour rebondir sur l'extrait qu'on a entendu, hein, cette séparation entre Marie et Boris, c'est le nom des personnages, séparation compliquée parce qu'on l'a bien entendu, lui-même essaye d'argumenter en faveur d'une répartition des gains qui ne serait pas 50-50, un peu plus, et la maison celle qu'il a achetée, mais lui a fait des travaux, donc lui on doit lui remettre, si on doit prendre en compte le temps qu'il a investi, des problèmes de couple et de séparation comme beaucoup de gens en connaissent. Est-ce que vous opposez vie quotidienne, vie domestique, vie familiale et philosophie?
Alors dans ce film, non, par exemple, puisque l'économie du couple, c'est bien une question d'économie finalement au sens large, hein, qui traverse toute relation humaine et notamment un couple. Et donc ça se traduit en monnaie de manière très pragmatique, mais ouais. En réalité, ça raconte autre chose, quoi. Ça coûte combien de se séparer, au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est assez, ça m'a beaucoup intéressé aussi dans ce sens-là. Ensuite, je pense que, alors la vie quotidienne, non, elle n'est pas toujours sous-tendue par un questionnement ou une grille philosophique. Heureusement, hein, quand on lave ses chaussettes sales, on n'a vraiment pas besoin d'en appeler à Platon. Mais et puis moi, je parle assez peu de philosophie. Je sais pas, à table ou avec des copains, c'est pas vraiment. C'est très rare que j'en parle que avec des amis qui font aussi de la philosophie et donc où on échange sur des questions. Enfin voilà, c'est des vraies discussions quoi de philosophie. Mais sinon, j'aime pas trop mélanger les genres, même si par ailleurs, je pense que encore une fois, le rapport philosophique au monde fait que on interroge les problèmes qui sont des problèmes quotidiens dans le sens où c'est ceux qui sont irrigués ou qui nous sont donnés par la radio, la télévision, enfin voilà ce qu'on reçoit en tout cas des problèmes de la société, des problèmes politiques, etc. Ça, je pense que le regard philosophique effectivement joue un rôle important dans la manière de le recevoir et d'essayer de le comprendre, mais dans la mesure où ça c'est quotidien, puisque la radio est ouverte quotidiennement, ben, et que le flux du monde pénètre les foyers, bien sûr que oui, dans ces cas-là, la philosophie est utile. Pour le reste, elle n'a pas partout sa place.
200 personnes se sont rassemblées ce matin à l'université de Perpignan, étudiants, professeurs et personnel administratif, ensemble pour dénoncer la prochaine loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
Cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche, elle entend en fait, sur des choix purement gouvernementaux, d'attribuer les crédits pour la recherche et l'enseignement supérieur à certains pôles d'excellence dans des domaines bien spécifiques, ce qui va entraîner immanquablement la fin de la liberté de l'enseignant-chercheur de choisir ses propres sujets de recherche et donc d'avoir une recherche purement inféodée aux politiques.
On peut directement imaginer que les grandes universités qui déposent davantage de brevets, donc c'est-à-dire le domaine scientifique sera favorisé, tandis que les sciences humaines, elles, vont être dévalorisées. Quelque chose qui n'est pas jugé de utile dans le monde de la finance, ce qui fait qu'elles vont être mises de côté et vont avoir encore une baisse de dotation plus importante.
Vous venez d'entendre une archive diffusée sur France 3 le 5 mars 2020. La recherche est inquiète, l'avenir de la recherche inquiète les chercheurs. J'imagine que vous aussi, Mazarine Pinjon, en a parlé en début d'émission, hein, ce que c'était que la recherche. Est-ce qu'il y a une responsabilité du philosophe ici à dénoncer des choses? Alors, soit quand elles sont plus loin de lui, des engagements plus généraux, plus politiques, ou encore là quand elles sont vraiment, quand elles le concernent de plein fouet, à savoir la recherche.
Là, effectivement, très clairement, la recherche est en danger. Il y a une pensée néolibérale de la recherche qui tend à instrumentaliser la recherche au profit d'autre chose que d'elle-même. Mais en l'occurrence, comment voulez-vous rechercher, surtout en sciences humaines? Mais bon, je pense que les sciences humaines n'ont même pas été envisagées dans cette réforme, tellement elles n'existent pas, visiblement, dans la tête de la ministre, mais comment voulez-vous faire de la recherche, c'est-à-dire vraiment découvrir des choses, si vous êtes orienté vers un but qui est préalablement défini par quelqu'un d'autre, par un autre acteur que vous, qui en général obéit à un cadre auquel vous ne souscrivez pas nécessairement. C'est-à-dire que la question n'est pas décidée par vous. Vous essayez de trouver les réponses, mais vous ne décidez pas de la question. Enfin, c'est ça l'idée de flécher des budgets, par exemple, sur tel ou tel projet de recherche. C'est absurde, surtout en sciences humaines, surtout en philosophie, où évidemment, lorsque vous avez vos propres objets de recherche, dès lors que vous les indexez sur des questionnements qui vous sont extérieurs, vous devenez ancillaire en fait. Et je vois pas comment la philosophie doit peut ou doit devenir ancillaire d'autres choses qui seraient plus importantes, une rentabilité économique. Alors, vous voyez, on est quand même évidemment à l'opposé d'une rentabilité économique, et c'est ça qui fait la beauté de la philosophie. C'est sa gratuité, d'une certaine manière. C'est son lieu de résistance. C'est le fait qu'elle est encore capable de poser des questions qui ne lui viennent pas de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir questionner le monde. Comment peut-on questionner le monde dès lors que la question est décidée par ailleurs, dès lors qu'elle vient du monde lui-même? Il me semble qu'on empêche là, alors on n'empêchera jamais totalement les gens de penser, mais la recherche institutionnellement, effectivement, est très clairement en danger. Ensuite, au-delà de la maison même du philosophe, là où il peut travailler, là où il peut vivre, hein, tout simplement, gagner sa vie.
Et puis il a un rôle à jouer, plus largement, politiquement.
Il a évidemment un rôle à jouer, mais c'est compliqué de le définir, ce rôle. Je pense pas qu'il puisse être le conseiller du prince aujourd'hui. Parce que le conseiller du prince, c'est une technique. Je pense que le philosophe doit justement réinterroger ce pourquoi on met en œuvre des techniques. Il doit réinterroger le schème même de la technique comme ce qui aurait la valeur, enfin qui devrait avoir le plus de valeur. Le philosophe, c'est justement celui qui doit essayer de reposer différemment les problèmes, qui doit pas accepter les problèmes tels qu'ils lui sont posés par le politique. C'est celui qui doit réélaborer le champ du questionnement. Et là, par exemple, il y a un gros chantier à faire à gauche. Et donc, je pense que le philosophe doit à la fois évidemment être dans la cité, mais toujours un petit peu à l'écart. Voilà, c'est toujours difficile d'arriver bien à circonscrire la place qu'il doit occuper, mais c'est toujours, voilà, comme un petit peu comme les enfants et les fous, extérieur, intérieur.
En tout cas, ils sont toujours les bienvenus à ce micro, comme vous savez. Merci beaucoup, Mazarine Pinchot.
Merci à vous.
D'être venue ce matin nous parler de votre travail, votre rapport à la philosophie. On se quitte en chanson, comme chaque émission et chaque semaine. Il me semble que vous aimez particulièrement non seulement les musiques des années 70, mais aussi le film Grease. Une chanson de Grease, ouais. Ça vous va? Je vous laisse choisir. Summer Night ou You're the One That I Want. Laquelle choisissez-vous?
Waouh. Ça, c'est hyper difficile de choisir. C'est un choix cornélien.
Bon, ben, c'est la beau qui choisira, alors.
Voilà.
France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Bosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi, et vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Et oui, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un terme qui revient souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans le développement personnel, c'est le soin. Alors le soin, il faut le rappeler, est d'abord un grand concept en philosophie, on parle aussi du care, en reprenant la théorie de la psychologue et philosophe américaine Carol Gilligan. Pour le dire vite, le soin est une manière de repenser les rapports à autrui en termes d'attention et de sollicitude, en mettant ainsi l'accent sur l'idée de relation, relation singulière et incarnée à l'autre, plutôt que sur de grands concepts abstraits comme le bien, la justice ou la vie. Mais bizarrement, quand on parle de soin en développement personnel, la relation à l'autre disparaît complètement et on parle d'abord de prendre soin de soi. Or, que reste-t-il du soin quand il ne concerne que nous ?
Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer 7 petits rituels, parfois un peu étonnants, à adopter pour prendre soin de vous au quotidien. Alors prendre soin de soi, j'ai choisi d'en parler parce que, à mon avis, c'est pas du tout un acte égoïste. En fait, je vous explique. Il y a quelques temps, pendant les fêtes, au fil d'une conversation, donc voilà, je commence un petit peu à assumer et parler autour de moi du fait que je parle de développement personnel, parce que ça me passionne, je me suis aperçue que pour certains, c'est un repli sur soi, une fermeture un petit peu au reste du monde et aux autres. Et vraiment, j'ai envie de dire que c'est pas ça. Mais je crois qu'on a besoin d'un passage, d'un recentrage sur soi.
Je me demande, Géraldine, où vous trouvez toutes ces perles sur YouTube que vous diffusez chaque jour?
Je passe un temps infini oui, sur Google ça. Et j'aime beaucoup ça. Et alors, quand j'ai dit justement que le soin revenait tout le temps dans le développement personnel, j'aurais même dû dire qu'ils étaient employés comme des synonymes, car justement, puisque je passe mon temps sur Internet, si vous faites une recherche en tapant « développement personnel », vous ne tomberez que sur des articles, des livres ou des vidéos qui vous diront comment prendre soin de vous, de votre temps, de votre histoire. Et j'ai même lu « Prendre soin de son enfant intérieur ». Alors, se développer, c'est donc prendre soin de soi, ce qui est doublement problématique, il me semble. D'abord, pourquoi se développer passerait-il en effet forcément par le soin? Le soin est-il vraiment équivalent au développement, à l'amélioration, à l'accroissement? Mais aussi, pourquoi se développer serait-il forcément un développement de soi et pas des autres? Où est donc passé l'autre dans cette promotion du soin? Alors oui, je vois bien que dans développement personnel, il y a personnel, mais personnel ne veut-il dire qu'à propos de soi et de personne d'autre? Les objections qu'a entendues cette coach qu'on a entendue et dont elle nous fait part me semblent légitimes. Le développement personnel implique une forme d'égoïsme, mais surtout, et c'est ce qui me frappe, il détourne l'idée même du soin de l'autre vers soi, soi-même et personne d'autre. Or, peut-on encore parler de soin quand il ne s'agit que de nous?
Quand tout le monde te dit « tu as l'air fatigué », il faut réagir. Découvrez le nouveau soin rouge Revitalift de Paris. Sa formule anti-fatigue au ginseng rouge réveille l'éclat. Et le pro-rétinol aide à raffermir et lisser les rides. Nouveau soin rouge Revitalift de Paris.
Prendre soin de soi est une idée désormais entendue, admise. Les soins de beauté ne concernent d'ailleurs que cette idée. Prendre soin de soi pour briller, être à son meilleur, se sentir bien et le montrer. L'idée est un peu superficielle mais pas inintéressante quand on sait que l'on peut avoir en effet tendance à se négliger, à se mettre à l'épreuve, soit par excès d'altruisme, soit par excès d'ambition. Mais cette idée a beau être admise, promue, vendeuse, belle ou autre, je dois dire qu'elle me laisse malgré tout perplexe. Déjà parce que comme je l'ai dit, elle a une dimension égocentré qui me semble contraire au concept de soin, mais aussi parce qu'elle me semble ne mettre l'accent que sur la dimension cosmétique du soin. Prendre soin de soi, c'est être soigné, entendez être présentable, ce qui paraît bien loin de l'idée d'un réel développement, d'un réel déploiement de soi. Mais surtout, c'est le dernier problème pour moi, parce que prendre soin de soi me fait tout de suite penser à ça. J'imagine que mon moi, sorte de masse informe qui aurait mes yeux, serait sur un brancard, admis à l'hôpital, soumis à des soins, ausculté, ou qu'il serait alors dans un lit avec ma maman qui me lit une histoire. Or, qui veut ça? Qui veut s'auto-ausculter? Qui veut s'administrer des soins? Qui veut s'auto-materner? Il faut se rendre à l'évidence, quand on prend soin de soi, on se fait son propre patient ou son propre enfant. Le soin est un concept à la mode. C'est vrai qu'on en manque cruellement, on manque cruellement d'une théorie intersubjective de la justice et je suis sérieuse sur ce point. Mais le soin de soi ne manque pas, au contraire. Car il concentre selon moi sous un aspect éthique ce qui ne l'est pas du tout. Il force l'individualisme, la superficialité et surtout il implique une mise en scène de soi sur le mode infantile ou maladif. C'est je crois le pire à mes yeux. Car prendre soin de soi c'est au fond mimer une position de fragilité et de vulnérabilité et en priver ceux qui en ont besoin. C'est ainsi réduire le soin à une simple posture et à ses trois toutes premières lettres.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo et surtout, prenez soin de vous. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette semaine, Anthony Thomasson qui était à la prise de son aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous non pas lundi prochain, mais lundi 24 août. Ce sera l'occasion de passer une nouvelle saison ensemble avec de nouvelles réjouissances et évidemment de nouvelles programmations. D'ici là, passez un très bon été à l'écoute sur France Culture.